Planète Immo, l'info immo qu'il vous faut. Une émission présentée par Mickaël Nogal, président du Conseil national de l'habitat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission Planète Immo que j'ai le plaisir de présenter, entouré de ma bande de chroniqueurs. Vous les connaissez, Henri Buzicazo, président de l'IMSI, l'Institut de Management des Services Immobiliers, Séverine Amat qui va nous rejoindre, qui est directrice des relations médias du groupe Se Loger, et Roselyne Conan qui est directrice générale de la NIL, je le répète toujours, la meilleure juriste de France. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, on va parler de plusieurs sujets d'actualité, la rénovation énergétique, la mixité sociale, le mal logement, avec notamment une experte qui sera notre invitée en deuxième partie d'émission. On accueillera Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. Et on commence tout de suite cette émission avec le billet d'humeur d'Henri Buzicazo.
Planète Immo, le billet d'humeur par Henri Buzicazo.
Oui, Mickaël, on a une spécialité en France, c'est le French bashing et l'auto-French bashing. C'est-à-dire qu'on est bourré de complexes et on l'est aussi pour la politique du logement. Ça fait 30 ans, allez, je le répète que je suis dans l'univers du logement, ça fait 30 ans que j'entends que on n'est pas bon, qu'on n'a pas une bonne politique du logement, qu'on se trompe, tout ça, quel que soit le gouvernement, la couleur du gouvernement. Je voudrais dire que c'est exactement l'inverse. On a une fierté, on l'a complètement oublié, nous tous même on l'a oublié, c'est d'avoir, depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, en France, une politique qui, de manière stable, fait une place à l'action publique essentiel, absolument essentiel. Et c'est vrai qu'au moment de parler du mal logement, c'est le 1er février 54 que l'abbé Pierre avait lancé son appel. Chaque année, on se rappelle que le mal logement n'est pas éradiqué. C'est un engagement du président de la République. Des choses ont été faites. Bref, ce mal logement, il serait infiniment plus important s'il n'y avait pas une action publique très forte, de manière constante. Et cette action publique, on peut citer deux repères, hein, 1894, c'est la loi Siegfried, on peut citer 1928, c'est la loi Loucheur. Bref, la première loi, et je le dis devant notre invitée prestigieuse, la première loi, elle a mis à disposition cet outil majeur de l'État, qui est la Caisse des dépôts, pour dire désormais, la Caisse des dépôts pourra contribuer à loger les Français, à créer des habitations bon marché à l'époque. Ce n'était pas que du locatif, d'ailleurs, c'était de l'accession sociale. Et puis ensuite, la loi Loucheur est venue dire que l'État pouvait participer à des grandes opérations de construction de logements sociaux. Et de manière ininterrompue jusqu'aux dernières lois, jusqu'à la loi Elan et sans doute la prochaine, l'État est là. Et l'État est là pour garantir qu'on ait notamment ce grand amortisseur social qui est le logement HLM, désormais. Mais voilà, c'est 5,5 millions de logements locatifs, qu'on ait une accession sociale à la propriété avec des outils financiers qui sont puissants, qu'on ait un logement intermédiaire. On avait la dernière fois un représentant éminent d'Action Logement. Bref, tous ces outils, qu'ils soient publics, qu'ils soient semi-publics, sont là pour dire l'action publique, l'État, les collectivités locales aussi, sont là en tout état de cause. On a deux pieds sur lesquels s'appuyer. Le logement privé, incontestablement, il faut qu'il se porte bien. La promotion privée, le marché de l'accession privée à la propriété. Et puis, le logement public. C'est une fierté. On nous l'envie. Une seule illustration, j'en terminerai ainsi. 2008, une crise, celle des subprimes, qui a abîmé la politique du logement dans de nombreux pays. Et chez nous aussi. La ministre du logement espagnole rend visite à la France et à son homologue, féminine d'ailleurs à l'époque aussi, en France, et vient lui dire « J'aimerais savoir comment vous avez fait pour organiser le logement social. » Nous sommes en 2008 et nous, on est là à oublier que nous avons aussi cet amortisseur social, aussi cette sécurité pour les ménages français. Je pense qu'il ne faut pas être ingrat. Et je pousse un coup de gueule parce que on l'oublie. Alors bien sûr, on peut toujours dire « On ne fait pas assez pour le logement social, on ne fait pas assez pour logement intermédiaire, tel gouvernement est en retrait, on ne donne pas assez de moyens. » Quand on prend un peu de hauteur, On est un pays exemplaire, hein, de ce point de vue-là. Voilà, historiquement exemplaire, il faut qu'on le reste. C'est un impératif, c'est une obligation. Ça l'est pour tous les acteurs qui sont aux manettes, d'une manière ou d'une autre, de l'action publique. C'est aussi le cas de vous, madame. On s'adressera à vous tout à l'heure. Mais c'est et une fierté, une obligation. En tout état de cause, arrêtons de dire qu'on n'a pas une bonne politique du logement. On a globalement la meilleure politique du logement, incontestablement, de tous les pays qui nous ressemblent.
Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur le rôle de CDC Habitat avec notre invité. Je me tourne vers Roselyne. Roselyne, vous représentez aussi un organisme public qui accompagne justement le développement des politiques publiques et puis l'information des Français dans le logement. Comment vous percevez, vous, à la fois ce coup de gueule, mais qui est en fait un message positif d'Henri et le fait d'arrêter de se plaindre et puis reconnaître ce que fait la France en termes de logement?
Alors, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de politique publique. Je dirais sur différents sujets, hein. On est là, nous, pour les relayer et on ne manque pas de travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour vraiment faire de la pédagogie, du porter à connaissance, l'explication, justement, de l'ensemble de ces dispositions. Je vais en prendre quelques-unes, des récentes et des marquantes. C'est-à-dire que sur le thème, par exemple, du mal-logement, qui est un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui, évidemment, on avait une boîte à outils existante, un peu complexe, mais voilà, on a une ordonnance récente qui est venue simplifier les choses. Donc, les choses avancent. Je vais prendre un autre exemple, effectivement, sur la rénovation énergétique, qui est aussi notre sujet aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, une multiplicité d'aides, mais c'est vrai qu'on est là aussi pour traduire tout ça, expliciter, orienter les particuliers et puis aussi accompagner les collectivités locales dans la mise en place de ces politiques publiques qui doivent se coordonner avec les politiques nationales pour avoir une cohérence et puis qu'on les comprenne bien. Donc c'est vrai que nous, on est là aussi pour ça, pour traduire justement ces politiques. Et concernant le logement social, la mission effectivement sur la mixité qui a été confiée à M. Nogal, elle est d'une grande importance. Et c'est vrai que nous, on a identifié des sujets d'information des demandeurs. Ce qui est important, c'est de connaître qui demande le logement social et quelle est la qualité de ce parc. Et je pense qu'un accompagnement d'un demandeur, c'est vraiment primordial, parce qu'il fera une demande qui sera pertinente par rapport au secteur, par rapport à la réalité de sa situation. Et on aboutira justement à des attributions qui sont, je dirais, bien coordonnées et cohérentes.
Alors, vous avez fait le lien, je trouve intéressant de faire le lien entre mal-logement et rénovation énergétique. On aura quelques chiffres tout à l'heure avec Séverine et grâce aux études du groupe Se Loger. On a participé avec Henri il y a quelques jours à un événement organisé par la Chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM qui a fait une enquête très intéressante sur la décence et comment la décence est considérée et perçue par les Français. Alors, il y a un cadre légal, il y a la loi de 89 et un décret de 92 qui fixe les conditions de la décence d'un logement, et notamment 2002, oui, donc bien, qui est arrivé bien plus tard que la loi de 89, et qui revient sur les critères, notamment en termes de sécurité, en termes de santé, pour les occupants dans les logements. Henri, cette étude, elle nous a montré qu'en fait, les Français commencent à ajouter d'autres critères dans ce qu'est venu fixer la loi et le décret. On parle par exemple des niveaux de loyer, on parle de la sécurité dans le quartier dans lequel on vit.
De l'environnement, tout à fait.
Du logement. Des liens avec les transports, savoir si c'est un quartier accessible ou pas.
Alors, il y a une ambiguïté. Les Français, et ça rejoint le satisfait-site que pour moi j'avais, trouvent quand même que leur logement est décent. C'est-à-dire, avec leurs critères à eux, qui, voilà, ils ne sont pas juristes ou ils ne le sont pas tous, ils disent globalement qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires, mon logement, il est bien. Et puis ensuite, quand on leur dit qu'il y a des exigences, et puis ils commencent à les connaître, ces exigences sont des diagnostics qu'ils leur mettent sous les yeux quand ils achètent un logement, quand ils le louent, ils disent oui, c'est vrai, bon, c'est mieux comme ça, c'est mieux si mon électricité est aux normes. Alors que la plupart disent tout va bien pour l'électricité. Non, en fait non. Vous êtes en situation d'illégalité. Bon, ils reconnaissent qu'on peut améliorer telle ou telle chose. Et ils en rajoutent. Et ils disent, mais à bien y réfléchir, c'est vrai qu'on pourra aller plus loin. Mon loyer me conduit à un taux d'effort qui est très important. La sécurité dans mon quartier, n'est pas suffisante. La qualité de vie, l'air que je respire. Donc, on voit une ambiguïté avec à la fois des Français qui, globalement, et reconnaissent que dans ce pays, on ne vit pas mal dans son logement, sont assez satisfaits, et deuxièmement, qui commencent à manifester des exigences salutaires pour le parc immobilier, parce qu'il faut en arriver à ce qu'il n'y ait aucune dangerosité électrique, à ce qu'il n'y ait aucune dangerosité sanitaire autour du saturnisme, par exemple, et ils sont en train de le réaliser. Donc la barre monte, et ce n'est pas le législateur qui l'a fait monter. Je pense que le législateur, depuis la loi Carrez, d'ailleurs, qui a été le premier diagnostic, on le dit volontiers,
c'est vrai qu'on parle toujours 96, de la surface de loi Carrez.
C'est elle qui a fait naître le métier de diagnostiqueur immobilier. Ben, les Français, ils ont exprimé, le législateur a traduit, bien sûr, on a reproché au législateur qu'il soit
européen. On reproche plein de choses au législateur en général.
Hein. On a dit, mais pourquoi on vient nous embêter avec ceci-là? Ben, le législateur a entendu, a écouté. On va aujourd'hui vers une majoration des exigences. Elle est salutaire, elle n'est pas qu'environnementale au sens écologique ou énergétique du terme. Plus largement, je pense que tous les efforts qui ont été faits, j'ai cité des noms tout à l'heure de grands parlementaires qui ont balisé l'histoire de la politique du logement, ben, ils doivent être heureux là où ils sont. Ils nous ont quittés depuis longtemps pour certains, pour d'autres ils sont toujours avec nous. On a une série de ministres du logement qui ont été engagés. Ben, je pense qu'on peut constater aujourd'hui qu'on va devoir aller plus loin parce que les Français le souhaitent. Et bien sûr, après il y a une difficulté pour le législateur de dire, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Il y a une future loi qui se présente, hein, issue de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce qu'on met la barre tellement haut qu'aucun propriétaire bailleur ne pourra l'atteindre? Ça, c'est un autre sujet.
Alors, on va revenir sur quelques critères, et notamment le premier critère de décence pour les Français.
Les toilettes.
Les toilettes.
Mais bien sûr.
Les toilettes, disposer des toilettes dans le logement.
Bien sûr.
Et non pas sur le palier. Ce critère, il est aussi lié au fait que les Français estiment qu'un logement décent, c'est un logement où l'espace habitable pour une personne serait équivalent à 30 mètres carrés. Et 20 mètres carrés pour chaque personne supplémentaire.
L'INSEE a commencé
à... Or, dans la loi, c'est 9 mètres carrés.
Absolument. Mais l'INSEE qui définit des critères, voilà, on pourrait dire, mais ce sont des scientifiques, des intellectuels. L'INSEE, sur ces deux critères, que sont l'espace vital et que sont la dignité humaine, hein, parce que c'est ça. Il y avait un médecin, hein, dans le débat que vous évoquez, et qui disait, mais ça ne me paraît pas anormal qu'on dise ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la pudeur, enfin, fait que, bien sûr, qu'on veut des toilettes plutôt chez soi que sur le palier. Mais très longtemps, dans le parc immobilier français, ce critère n'a pas été rempli par de très nombreuses habitations, y compris dans la ville capitale, hein, d'où on parle. Et donc, les Français, finalement, ce que disait l'INSEE, ils disent que c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils veulent de l'espace, ils veulent la dignité, ils veulent l'hygiène chez eux, et après, ils mesurent que l'hygiène, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des exigences sanitaires extrêmes pour qu'on soit tous en bonne santé durablement, et c'est vrai qu'en situation de confinement ou de couvre-feu, c'est-à-dire de vie beaucoup plus longue à l'intérieur, mais on s'aperçoit que tout ça, c'est précieux, on le réalise plus qu'on l'avait jamais compris, oui.
Alors, parmi les critères, il y a aussi la volonté de se sentir bien, la notion de confort dans le logement. Là
oui.
aussi, c'est déjà dans la loi, mais on le voit aussi dans cette étude. C'est lié aussi à peut-être de futures obligations. On verra justement les législateurs qui seront saisis bientôt d'un texte issu de la Convention citoyenne pour notamment peut-être interdire ou en tout cas rendre obligatoire des rénovations chez les propriétaires occupants ou chez les propriétaires bailleurs, sous peine de ne pas pouvoir soit augmenter les loyers, soit carrément louer un bien. Cette rénovation énergétique, on le sait, elle est importante pour les Français. La ventilation, ces notions qui sont importantes, mais parfois méconnues. Et donc, je vais peut-être maintenant laisser la parole à Séverine, parce que Séverine, elle va nous apporter des chiffres très intéressants grâce aux études du groupe Se Loger. C'est la rubrique L'actu en chiffres avec Séverine Amat.
Planète Immo, l'actu en chiffres avec Se Loger par Séverine Amat.
Eh bien, bonjour à tous. Bonjour,
bonjour Séverine.
J'espère que je vous trouve en bonne forme, en bonne santé.
Toujours.
Bon.
Très bien.
Alors oui, comme vous l'évoquiez aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique. D'ici à 2050, la France devra avoir atteint la neutralité carbone, ça vous le savez, peut-être mieux que moi. Alors, on va faire un petit travail de calcul, hein, avant de de vous présenter mes chiffres. Sachant que les bâtiments, aujourd'hui, sont responsables de 19% des émissions de gaz à effet de serre, il y a en effet une belle urgence et une grande urgence à rénover. Alors le gouvernement, vous le disiez Henri, hein, il est là, il va aider, il en a pris conscience. Et dans le plan de relance, il y a pour cela un budget alloué, 7 milliards d'euros d'ici 2 ans, dont 2 milliards pour les logements privés. Il y a un objectif de rénover 500 000 logements
c'est
par
ça.
An. Hein, voilà. Alors j'ai lu un article dans Le Monde récemment qui disait que c'était une députée de l'Isère qui faisait cette réflexion et qui disait justement, tiens, en France, il y a 35 millions de logements. On a 30 ans d'ici 2050 si on a envie d'atteindre cet objectif, hein, de rénover l'ensemble du parc. Est-ce que 500 000 logements par an rénovés, est-ce que ça va être assez? Est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas en rénover 1 million par an pour respecter l'objectif fixé? Voilà, ça c'est la grande question d'ouverture.
Oui, c'est ma collègue Marjolaine Ménilfer.
Voilà, sans citer de nom. Voilà, donc ce texte-là du Monde me faisait réfléchir. Alors, on a un constat, il faut rénover. Avons-nous les candidats qui sont là et qui sont prêts à acheter un bien à rénover? C'est ce que le sondage Se Loger vous éclaire et vous donne aujourd'hui. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que les candidats à l'acquisition d'un bien dans l'ancien à rénover sont là. Et ils sont même 82% à estimer qu'il serait opportun pour eux que d'acheter ce type de bien. Quand on regarde le profil de ces porteurs de projets, on s'aperçoit qu'ils sont relativement jeunes, moins de 35 ans, et puis relativement aisés. 86% d'entre eux sont des CSP+, et ils sont dans les starting blocks pour acquérir ce type de bien. Ils ont au moins...
Donc c'est les plus jeunes et les CSP+, qui ont tendance à se diriger, à se tourner vers la rénovation.
Oui. Et ils ont au moins 3 bonnes raisons que de le faire. On le voit au niveau des vagues de sondage. Entre les vagues, entre 4 mois d'écart, on gagne au moins une bonne raison de plus sur cette dernière vague de novembre pour ces moins de 35 ans que d'acheter dans l'ancien, à rénover toujours. Et si on fait le classement de ces bonnes raisons, la première, c'est qu'effectivement, si on rénove, on rénove à son goût. Si on rénove, eh bien, on paye moins cher sans changer de localisation, en restant dans son quartier, dans son village, dans son lieu d'affect. C'est très important aussi, l'ancrage. On gagne en surface intérieure, mais aussi extérieure. Effectivement, acheter un bien avec travaux, il y a plus de logique d'acheter plus grand et de rénover que d'acheter plus petit, plus condensé, plus restreint. On l'a vu, oh combien cette surface, en plus, elle est tellement importante post-Covid.
Alors c'est vrai que vous parliez du budget qui est alloué dans le cadre du plan de relance. Et on en parlera avec aussi notre invitée Anne-Sophie Graff tout à l'heure. C'est 7 milliards pour les bâtiments, 2 milliards pour les bâtiments particuliers, pour les logements.
C'est ça.
Avec MaPrimeRénov', et MaPrimeRénov' a été refondu pour permettre justement d'être accessible à la fois aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés. On sait, on en avait parlé lors de la première émission, le sujet de la copropriété est un sujet en soi. Est-ce que vous avez une perception à la fois sur le taux de notoriété de cette, de cette prime, MaPrimeRénov', et puis le fait qu'elle ait changé entre ce qui était possible de faire en 2020 et ce qui est désormais possible en 2021, une prime très élargie?
Tout à fait. On a testé sur la dernière vague de novembre si il y avait une notoriété et une notoriété montante de cette prime. Effectivement, en fait, on s'est rendu compte que sur le panel des gens qui sont intéressés pour acheter un bien à rénover, ils sont 52%, je ne vais pas dire de bêtises, 53% à connaître l'existence de cette prime. Donc ça veut dire que c'est bien, c'est plus d'un sur deux, mais ils sont quand même, donc du coup, en sens inverse, 47% encore à ne pas connaître les aides, en fait, pas que MaPrimeRénov', mais les aides en globalité pour les accompagner dans cette rénovation.
Roselyne, vous aussi, vous êtes consultée là-dessus, les locataires, les propriétaires vous appellent pour savoir comment on fait la rénovation énergétique, quelles aides existent?
Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui répondent donc sur les aides à la rénovation énergétique. On en fait partie, effectivement. Et c'est vrai que nous, en plus, on a recensé les aides des collectivités locales. Donc, plus de 1500 aides sont recensées sur le site de la ville. Qui viennent s'ajouter
aux aides nationales.
Voilà, qui viennent se coordonner avec les aides nationales. Alors après, comme vous le savez, il y a des aides pour les salariés complémentaires d'Action Logement. Donc, tout l'enjeu, c'est justement de coordonner et d'associer ces différentes aides pour avoir un plan de financement le plus ambitieux possible et peut-être prévoir un projet, je dirais, ambitieux et plus important que ce qu'on avait imaginé au départ. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, de l'achat-rénovation. Et c'est au moment de l'achat qu'il faut rénover. C'est-à-dire que le logement, il est vide, comme le disait Séverine. Mm-hmm. On l'aménage à son goût et du coup, on va le rendre performant.
Exactement. Séverine, quels autres enseignements on peut tirer des études?
Les autres enseignements, c'est que quand on leur demande « Mais pourquoi ne connaissez-vous pas ces aides ?» Eh bien, tout simplement, ils ne savent pas où chercher l'information pour 40% d'entre eux. Et puis, pour 38% d'entre eux, ils ne se considèrent pas comme éligibles, ayant droit. Et ça, c'est important d'évangéliser, de continuer toute cette pédagogie auprès de ces porteurs de projets, parce qu'on pourrait croire que 100% de la cible connaît et sait où chercher. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas.
Très bien. L'instabilité est un mal aussi. Hein. C'est-à-dire, comme ça change, ça a beaucoup changé. Mmh. Espérons que ça ne changera plus jamais pendant 2-3 ans. C'est difficile pour le public.
Bon, bah écoutez, on va passer au conseil de la NIL avec Roselyne qui va nous éclairer là aussi sur les sujets qu'on évoque aujourd'hui, le mal logement et la rénovation. C'est les conseils de la NIL avec Roselyne Conant.
Planète Immo, les conseils de la NIL par Roselyne Conant.
Alors, je vais démarrer tout d'abord par une question plutôt en lien avec le mal logement. Donc là, c'est une personne qui était venue à la rencontre d'une NADIL en disant qu'il avait mis à la disposition d'une personne visiblement sans abri son garage, son sous-sol plus exactement. Et l'occupante de ce sous-sol avait fait un recours devant l'ARS en disant qu'effectivement, le local n'était pas vraiment habitable, il était impropre à l'habitation. Et le propriétaire s'étonnait effectivement qu'un arrêté ait été pris alors que son garage était vraiment carrelé, était plutôt pas mal. Il y avait un petit
accès. On revient au sujet de décence et de la perception entre un locataire qui occupe le bien et un propriétaire bailleur qui le met en location.
Donc là, un petit rappel de droit, hein, un sous-sol, une cave, les combles, voilà, sont considérés comme des locaux qui sont insalubres. Et à ce titre, ils ne peuvent pas être mis à disposition en tant qu'habitation. Et c'est à ce titre-là, et même gratuitement d'ailleurs, hein, on ne pourrait pas le mettre ni en location ni à disposition. Et le préfet peut prendre de ce fait un arrêté de traitement de la salubrité et il peut prescrire la cessation de la mise à disposition de ces locaux, bien évidemment, et fixer éventuellement une astreinte hein, pour mettre fin à cette occupation et puis demander bien évidemment la restitution des sommes, toutes sommes perçues en échange de cette occupation.
Henri, comment on doit traiter les marchands de sommeil? Parce que là, il s'agit d'habitat insalubre qui ne correspond pas aux critères de décence.
Ouais, deux choses, une petite pour prolonger hein, et faire sourire un sens.
C'est même au-delà de la non-décence, là. Ouais.
Habitat humanisme, à qui il est proposé chaque année des logements hein, pour loger des personnes démunies, en difficulté, en rejette 70%. Pour ces raisons-là. Eh bien oui, la générosité, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, est-ce que ce que je mets à disposition, c'est correct? Ou est-ce que moi, j'y vivrai? Souvent, c'est non. Pour moi, je trouve que ce que les pouvoirs publics ont fait peser sur les professionnels de responsabilité, c'est-à-dire les agents immobiliers, les administrateurs de biens, pour signaler les marchands de sommeil, pour signaler l'habitat indigne, mais aussi pour signaler les circuits financiers opaques, hein, voilà, Tracfin, bon.
C'est une obligation légale.
C'est aujourd'hui une obligation légale et ça fait maintenant, de manière ininterrompue, allez, on va dire 15 ans que le législateur dit aux professionnels « on a besoin de vous ». Il y a une rétribution pour ça? Non. Non, c'est la contribution à l'action publique
et
c'est la
fierté,
et c'est la responsabilité. Ça va avec le reste. C'est pas facile. Les grandes fédérations, la FNAIM ou l'UNIS, je les ai entendus ferrailler pour dire mais oui c'est normal avec des adhérents qui disent mais enfin on a autre chose à faire. Et il y a des risques parce que signaler un marchand de sommeil. Moi j'ai entendu ça et c'est pas faux. Quand on est syndic dire on pense qu'au dernier étage il y a un marchand de sommeil. Ben c'est peut-être se mettre en risque, ouais. Voilà, pour sa propre vie, parce que marchand de sommeil, c'est pas forcément quelqu'un de gentil. Hein. Mais ça fait partie de la responsabilité. Et pour le coup, comment les pouvoirs publics feraient-ils sans s'appuyer sur ceux qui sont des acteurs du parc, du logement, des transactions? Il n'y a pas d'autre solution. Donc je crois vraiment qu'on n'y arrivera que comme ça. Il y a un arsenal juridique, on peut toujours le renforcer, mais il est là. Mais il faut identifier le mal et identifier les acteurs, les coupables de ce mal logement, car il y en a.
Roselyne, comment on accompagne le locataire donc, qui fait la démarche de contacter la NIL? Comment il est accompagné derrière pour mettre fin à cette situation et être logé dans des conditions dignes?
Alors, vous avez donc la possibilité de contacter votre ADIL, soit en identifiant la ADIL la plus proche de votre domicile en passant par le site de la NIL
et
la carte interactive, mais il y a une ligne.
Par département.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 85 départements qui sont couverts, mais pour les départements non couverts, la ADIL voisine répondra aux questions.
Et vous recevez à la fois, on rappelle, en physique, en présentiel, ou des permanences téléphoniques
Et on répond par mail.
Et par mail,
voilà, donc on a toute possibilité, voilà, on est joignable. Mais ce que je voulais dire aussi, il y a la ligne Info Logement Indigne, hein, 0806 706 806, qui permet justement, vous composez ce numéro, vous indiquez votre numéro de département et vous allez être routé vers la DIL la plus proche de votre domicile. Donc, via cette ligne ou via l'appel directement à une ADIL, on va essayer de qualifier avec vous la problématique. Parce que un locataire me dit, voilà, mon logement, il est indigne. Alors voilà, un logement indigne, qu'est-ce que c'est ?
Il faut le qualifier.
Il faut qualifier. Donc, en fait, on a un système de grille qui permet, en posant quelques questions au locataire, d'identifier la problématique. Alors, ça peut être de la non-décence. Donc, si c'est de la non-décence, on va vérifier s'il est allocataire ou pas d'une aide au logement. Et à ce moment-là, il y aura une démarche à faire et à signaler auprès de sa caisse d'allocation familiale qui va pouvoir conserver les aides. Et le locataire sera accompagné pour écrire à son propriétaire pour lui demander de mettre en conformité le logement aux normes de décence. Parce que là, on est sur du lien contractuel. Donc là, on ne fait pas intervenir une police, que ce soit le maire ou le préfet. C'est un lien contractuel, donc on va après saisir le tribunal pour contraindre le bailleur à faire les travaux. Donc la caisse d'allocation familiale va conserver les aides au logement, donc il n'y aura plus d'aide qui sera versée, et le locataire ne sera pas tenu de payer ces sommes-là. Donc c'est-à-dire que le propriétaire, on va directement, ce qu'on appelle, taper au porte-monnaie, donc aura moins de ressources par rapport à cette mise en location. Et s'il fait les travaux, donc bien évidemment, on va l'orienter aussi sur la DIL, parce qu'il y a des aides, il y a des aides de l'ANA, il y a des choses qu'il faut mettre en place. L'objectif, c'est de convaincre le propriétaire à faire ses travaux. À partir du moment où le propriétaire aura compris qu'il est en infraction avec ces règles-là, on va l'inviter, on va lui expliciter, même fiscalement, il y a des choses qu'on peut déduire de ses revenus fonciers, et puis essayer de le convaincre de faire les travaux, et à défaut, on accompagnera le locataire, dans sa démarche judiciaire. Alors, si c'est plus grave, c'est-à-dire si c'est dangereux, c'est-à-dire que quelque chose menace de s'écrouler sur le locataire, ou si on a une insalubrité, donc là, on orientera vers le bon acteur, le bon interlocuteur, qui fera constater et qui prendra des mesures, des éventuels arrêtés, pour faire cesser le danger ou l'insécurité.
Et quel conseil on peut donner aux personnes qui nous écoutent et qui se diraient je vois certaines choses, je constate certaines choses dans mon logement, je ne suis pas sûr qu'il soit décent, j'ai peur d'en parler directement au propriétaire.
Appelez votre ADIL.
Parce qu'on voilà. On appelle l'ADIL.
C'est ça. On appelle l'ADIL. Elle va vous aider à qualifier. Et puis, elle vous expliquera aussi comment le présenter au propriétaire.
Ouais.
C'est-à-dire que le propriétaire, je pense qu'un petit échange par mail, un petit échange par téléphone peut démarrer de renouer le lien. Voilà. J'entends. Donc, évidemment, renouer le lien. Un propriétaire peut très bien imaginer et considérer que son logement, il est toujours beau, magnifique,
de bonne foi.
Mais c'est vrai que si on lui explique clairement, avec les fondements juridiques, en lui expliquant, écoutez, voilà, vous voyez, cette prise, elle est vraiment dangereuse. On a fait intervenir un électricien qui a fait un constat avec un devis, comme quoi, il y avait une installation dangereuse, il y a des problèmes d'humidité, l'évacuation des eaux ne se fait pas correctement, le garde-corps menace de s'écrouler dans la rue. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer. Et ce qui est important, c'est de qualifier, l'expliciter au propriétaire, et puis garder une trace écrite de sa demande.
Il y a les deux tiers du parc, il faut le rappeler, c'est un sujet qui est cher
à
l'animateur de cette émission, les deux tiers du parc qui sont autogérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Un intermédiaire, on dit ce qu'on veut, on peut en penser qu'il ne travaille pas assez bien, etc. En tout cas, il a un regard critique et le parc qui est intermédié, en gros, ne connaît pas ce degré de problème. Voilà, parce qu'il y a un professionnel qui, à un moment donné, il met son nez à un œil critique et qui dit, écoutez, ça, je ne peux pas le louer. Il y a un truc qui ne va pas.
D'ailleurs,
et aujourd'hui, les diagnostiqueurs corrigent ça, puisque pour chaque location, il faut des diagnostics désormais. Le législateur a bien travaillé. Et donc, c'était dit, lors de la journée que vous évoquiez, le diagnostiqueur est le seul professionnel qui entre dans tous les logements. Même ceux qui ne sont pas intermédiaires, on fait entrer quelqu'un qui a un regard technique critique. C'est déjà un grand progrès. Là aussi, on parler des pouvoirs publics, c'est un progrès dans notre pays.
C'est bien de rappeler ce chiffre des deux tiers du parc non intermédié, c'est que pour les pouvoirs publics, c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire savoir ce qui se passe sur les territoires alors qu'on n'a aucune remontée d'informations.
Totalement.
Et c'est pour ça que le réseau des ADIL est aussi précieux pour les décideurs parce qu'on a comme ça des
on
remontées.
On reçoit 100 000 bailleurs par an.
Sur le sujet...
Sur tous les sujets.
Sur l'ensemble des sujets que vous couvrez.
Globalement, le profil de nos contacts, on a beaucoup de locataires. On a quand même plus de 100 000 bailleurs qui viennent nous voir pour nous poser des questions sur « je veux mettre en location, dois-je réparer telle chose, puis-je augmenter mon loyer, Dois-je restituer la totalité du dépôt de garantie? C'est assez variable. Mais on a aussi des candidats à l'investissement locatif qui viennent nous poser la question. J'ai envie d'investir, comment faire?
Et beaucoup des bailleurs gèrent eux-mêmes, j'imagine.
Exactement.
Parce qu'autrement, ils se tournent assez naturellement vers leur, leur gestionnaire. Ouais. Mais là, ils vont directement vers le vers
voilà,
la NIF.
Ils peuvent s'appuyer sur nous. C'est vrai que c'est un public qui est difficile à toucher. Et c'est vrai qu'il y a porter à connaissance, c'est pas de la pédagogie à faire en direction de ces bailleurs, qui d'ailleurs, quand il y a une difficulté, que ce soit un impayé de loyer ou le mauvais état du logement, n'ont pas forcément cette connaissance des aides, des démarches à accomplir. C'est vrai que c'est important qu'ils aient aussi cette information-là.
Très bien.
Et il y a un risque que cette partie du parc soit mal rénovée. Je le dis parce que c'est un vrai gros sujet d'inquiétude. Je ne sais pas si les deux tiers autogérés vont accompagner le mouvement que souhaite l'État et vont consommer les 2 milliards de MaPrimeRénov. J'ai un gros doute.
On remettra les liens sur le site et l'appli Radio Immo, à la fois le lien maprimerenov.gouv.fr, ça c'est vraiment, je pense, le meilleur outil aujourd'hui qui est à disposition de tous les bailleurs sans distinction, le réseau FER pour accompagner, réseau qui est animé par l'ADEME sur les territoires, l'ANA, évidemment les ADIL qui sont présentes aussi sur tout le territoire, Action Logement qui arrive aussi avec des aides supplémentaires. Roselyne, peut-être on prend une dernière question qui vous est remonté par les Français.
Je vais rester dans le thème de la décence. Un locataire est venu à notre rencontre en disant « Écoutez, j'ai éteint mes radiateurs. Ils consomment vraiment beaucoup d'électricité. Effectivement, j'ai froid. Que puis-je faire? Que puis-je demander à mon bailleur ?» Donc là, il faut lui expliquer que le bailleur doit délivrer un logement décent avec des équipements qui fonctionnent. Là, la problématique n'était pas que les équipements ne fonctionnaient pas, mais ils étaient de très gros consommateurs d'énergie.
Ouais. Donc, des grippins, comme on dit.
Hein, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, là, on ne pouvait pas contraindre le bailleur aujourd'hui à changer l'installation, sauf peut-être à le solliciter en explicitant que la consommation d'énergie, elle est importante et que, à terme, puisque donc, la loi a évolué dans ce sens, et à partir du 1er janvier 2023, les critères de décence évoluent en termes de performance énergétique, et le bailleur sera tenu de fournir à son locataire un logement énergétiquement décent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la consommation exprimée en énergie finale par mètre carré par an doit être inférieure à 450 kW.
Alors comment on traduit ça pour les Français qui n'ont pas trop la notion de la consommation énergétique?
Voilà, étiquette G.
Dans le DPE.
Voilà. Donc, si, effectivement, mais ce sera pour les logements qui seront mis à disposition à partir du 1er janvier 2023. Donc, si le logement est trop énergivore, le bailleur ne pourra plus le mettre en location en l'état. Il devra faire des travaux.
Pour ne pas jargonner, le DPE, je m'en veux déjà d'avoir dit ça, c'est le diagnostic de performance énergétique, parce qu'on est entre nous, donc ici tout le monde le sait. C'est la fameuse étiquette comme on l'a chez Darty, je vais faire la publicité.
Sur une machine à laver, voilà.
Exactement.
On ne cite pas de marque.
Et avec on cite pas de marque.
Sur les équipements ménagers.
Sur les équipements ménagers, c'est comme ça qu'il faut dire. Avec des couleurs, et en effet, on va de la lettre A, pour ceux qui à l'école ont été notés comme ça, c'est la meilleure.
Et ce système de classification a fait l'objet d'une évolution, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Les tests sont... Et
jusqu'à la lettre G, qui est, sont les très mauvais élèves du parc.
Et il y a deux sujets, en fait, c'est la consommation énergétique, et donc aussi la facture pour les ménages. Et puis, comme le disait Séverine tout à l'heure, aussi l'étiquette qui est importante pour justement pouvoir changer tout ça.
Et ô combien important, parce que dans le sondage, on voit que près de 9 futurs acquéreurs sur 10 considèrent la performance énergétique de leurs biens comme importante, voire extrêmement importante pour 30% d'entre eux, et que 8 personnes sur 10 regardent le DPE avant d'aller visiter un bien.
Oui.
C'est-à-dire que
c'est devenu un petit peu automatique.
Ah oui. Et même pour dire, 62% des interrogés disent que le DPE ne compromet pas l'achat, mais que pour 20% restants, oui, il pourrait.
C'est un argument supplémentaire.
Voilà. Alors pour les 62%, c'est un levier de négociation.
C'est ça.
Et vous évoquiez aussi tout à l'heure l'impact sur l'environnement. On sait que le secteur du bâtiment et de la construction représente un contributeur important, malheureusement, aux émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, le diagnostic permet justement d'identifier cela pour le corriger. Est-ce que cette notion environnementale et avoir des logements plus vertueux, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour les Français, au-delà des économies qu'ils pourraient faire en faisant de la rénovation?
On voit déjà qu'il y a un intérêt à l'étiquette. Donc oui, ils se renseignent. C'est-à-dire que c'est un élément qui va être déclencheur dans la visite. Donc c'est un qui déclenche l'acte ou pas. Donc oui, c'est clairement important. Après, ce qu'on peut dire, c'est que oui, pour 30% d'entre eux, c'est encore plus important. C'est peut-être rédhibitoire aussi pour 20%, puisqu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout, quitte à s'orienter sur un autre type de bien si la lettre ne correspond pas à leurs attentes. Donc on voit que oui, de plus en plus, ce DPE s'inscrit. Il sera opposable à partir du 1er juillet.
C'est ça.
Donc oui, il est de plus en plus, il prend de plus en plus de poids. Au même titre que le diagnostiqueur entre dans la maison, eh bien ce DPE-là, il guide l'achat.
Y compris sur les marchés tendus. Il y a encore 2-3 ans, vous entendiez à Paris, à Bordeaux, à Lyon, vous savez, alors chez nous, c'est bien gentil tout ça, mais bon, il y a une file d'attente hein, devant chaque logement à louer ou à vendre. Alors autant vous dire que on n'en est pas à choisir entre les biens vertueux et les autres. Si, même sur les marchés tendus, ça s'impose. Au moins comme une pomme de négociation. C'est-à-dire qu'à Paris, pour prendre le marché le plus tendu, on n'achètera pas, c'est déjà le cas, dans les années qui viennent, en disant, bah, écoutez, le logement, il est classé très très mal. Comme je suis acquéreur pour occuper, je ne suis pas embêté. Je peux très bien l'occuper si je veux. Non, on ne va pas dire ça. On va dire, il est classé E, F, G. Moi, je négocie. Je ne l'achète pas à 12 000 euros, 13 000 euros du mètre carré. On en reparle.
Je devrais faire des travaux derrière.
Mais bien sûr, on va prendre en compte les travaux, c'est évident. Et il faut parler aussi de la valorisation du bien, justement, c'est-à-dire la valeur verte, on n'en parle pas assez. On parle des économies d'énergie, on ne parle pas de la pénalisation sur la valeur du bien dès lors que je vais devoir le revendre ou fixer mon loyer pour le louer. Ça devient un vrai sujet économique partout.
Mm-hmm. Bon, vous le savez, cette émission, elle a aussi vocation à mettre en avant les acteurs qui font le logement au quotidien. Et sur ces sujets, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Sophie Graff, qui est la nouvelle présidente du directoire de CDC Habitat, la filiale Logement et Habitat de la Caisse des dépôts. Madame Graff, Madame la Présidente, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes connue dans le secteur du logement, vous avez fait une longue carrière dans ce secteur. Vous étiez précédemment directrice générale d'Immobilière 3F, qui est une des principales filiales d'Action Logement. Vous avez pris vos fonctions au mois de septembre, si je ne me trompe pas.
Décembre,
au mois de décembre. D'abord, peut-être pour ceux qui nous écoutent, il y a des professionnels qui connaissent bien CDC Habitat, mais il y a des personnes qui connaissent moins bien le logement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est CDC Habitat et en quoi cet acteur est important pour le logement en France ?
Oui, bonjour d'abord. Alors CDC Habitat, effectivement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Nous nous définissons comme un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Donc nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts. Il faut savoir que nous gérons 500 000 logements locatifs. Je vais revenir un peu sur la nature de ces logements. Et ce qui est intéressant par rapport à votre thématique sur le mal-logement, une partie en fait de ces logements sont issus de la venue de la Caisse des dépôts sur le logement social qui faisait suite à l'appel de l'abbé Pierre. Oui. Parce que c'est important, parce que c'est ce que nous portons aussi dans les valeurs de notre groupe. Donc, opérateur global de l'habitat d'intérêt public, ça veut dire qu'on intervient sur tout le parcours résidentiel, du très social avec notre filiale Adoma. Donc là, on est sur l'hébergement d'urgence, les résidences sociales, au logement locatif social, au logement intermédiaire et jusqu'à l'accession sociale à la propriété. Donc voilà, tout le champ du parcours résidentiel. Nous intervenons aussi, alors ça c'est plus récent, mais nous avons vocation à venir sur des projets plus complexes pour apporter des solutions aux collectivités locales, par exemple sur les copropriétés dégradées. On va peut-être y revenir aussi sur le mal-logement, comment on intervient sur ces copropriétés dégradées, ou sur des actions cœur de ville, où là il s'agit de venir rénover en fait de l'habitat ancien. Et puis, vous avez beaucoup parlé de la rénovation énergétique. Donc, c'est vrai qu'on a un parc important. Donc, ça a été un sujet extrêmement important également pour nous. Et sur nos logements, aujourd'hui, on peut dire qu'on a quasiment éradiqué, en fait, les logements les plus énergivores, puisque nos logements en étiquette, pour revenir sur les étiquettes F et G, ne représentent plus que 2% du parc. Et nous allons les éradiquer d'ici 2025. Donc, c'est en cours. Et je peux donner peut-être la moyenne de consommation énergétique aujourd'hui de notre parc. Et alors, je vais reprendre un peu des données chiffrées, mais de 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Mais si on prend les étiquettes, ça veut dire qu'on est quasiment en C, en étiquette C, sur l'ensemble du parc, ce qui est plutôt une belle...
Donc le groupe CDC Habitat montre l'exemple.
Exactement. Mais c'est bien dans ce sens-là. Voilà, on est bien sur l'intérêt public. Intérêt public, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ben, ça veut dire que quand il y a une crise sanitaire et un risque de crise de la production de logements, effectivement, on est un contributeur important aussi du plan de relance. Donc le groupe a lancé en 2020 un appel à projet en fait, auprès des promoteurs immobiliers de 40 000 logements en acquisition, ce qu'on appelle la VEFA, pour soutenir la promotion immobilière, mais derrière pour soutenir le bâtiment, pour soutenir la production de logements et bien sûr aussi pour soutenir l'emploi local. Donc,
je reviens sur le sujet des étiquettes et on voit que le parc porté par CDC Habitat est donc plus vertueux que la moyenne du parc. On n'a pas évoqué quand même le sujet de la fiabilité des étiquettes aussi. On parlait du DPE des diagnostiqueurs, Henri, tout à l'heure. On a parfois des problèmes avec la véracité ou en tout cas la justesse du diagnostic.
Oh ben faut dire les choses comme elles sont. Le métier de diagnostiqueur ou d'auditeur énergétique, enfin, on peut appeler de différents noms cette compétence-là, large, c'est tout neuf. Bon, on le disait, 97, c'est 25 ans, c'est le dernier métier créé dans toute la chaîne. Bon. Les méthodes d'estimation de la vertu énergétique ont évolué, beaucoup.
Il y en a 15 trop ans, aujourd'hui.
Il y en a trop, mais globalement, c'est en train de se stabiliser. Et il y a eu des épisodes douloureux. Il y a des copropriétés qui ont engagé des travaux sur des bases qui n'étaient pas saines. On leur a dit, voilà, on fait un audit, il faut faire ceci, cela. La facture énergétique n'a pas baissé dans les proportions qui étaient promises. Il a fallu faire des retouches, rajouter des travaux. Budgétairement, c'était intenable. Il y a des cicatrices. Il y a eu des DPE. On a tout connu. Enfin, faut reprendre la presse. Les associations de consommateurs ont fait leur job en montrant que deux diagnostiqueurs faisaient deux DPE qui étaient à deux rangs de distance l'un de l'autre. Bon, il y a une voiture qui passait au contrôle technique, l'autre qui ne passait pas, pour être clair. Bon, tout ça n'était pas sérieux, mais il fallait stabiliser. Aujourd'hui, franchement, et au moment où le DPE va devenir opposable, hein, il faut rappeler ce que ça veut dire que juridiquement, on pourra dire à un propriétaire, stop, voilà, on ne discute plus. Et donc, ça veut dire qu'entre-temps, les méthodes sont stabilisées, elles ont évolué, on l'a entendu, hein, lors de la journée des diagnostiqueurs, qui avait une dimension technique aussi. Hein. Les audits énergétiques des copros, les diagnostics, tous ces outils-là ont gagné en fiabilité. On ne pourra plus s'abriter derrière ça pour dire « je ne fais pas, j'y comprends rien ». Voilà.
Madame la Présidente.
Oui, en rebondissant sur les propos, effectivement, pourquoi nous on intervient ? On intervient bien sûr pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais on intervient aussi principalement pour réduire la quittance du locataire. Bien donc sûr. C'est loyer plus charge. Et effectivement, on regarde justement le avant-après sur la consommation énergétique, puisqu'on a ces retours d'expérience aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'après une réhabilitation thermique, on arrive à faire baisser les charges énergie. Alors après, ça dépend aussi de l'augmentation du coût de l'énergie, mais on arrive à faire baisser les charges énergie de l'ordre de 25 à 30% après une réhabilitation thermique. C'est quand même très conséquent pour des locataires aux ressources modestes, voire très, très modestes.
Et comment vous appréhendez les changements aussi à la fois législatifs, mais aussi dans les pratiques ? On voit par exemple, en termes de système de chauffage, les chaudières au fioul qui vont être interdites dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles installations à partir du 1er janvier 2022. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des aides, on a aussi des propositions techniques qui peuvent venir justement remplacer ces chaudières au fioul. Comment vous appréhendez-vous aujourd'hui le défi de la rénovation énergétique avec on a besoin des professionnels labellisés RGE pour pouvoir prétendre notamment aux aides, ça c'est pour les publics particuliers. Et comment vous appréhendez-vous ce chantier de la rénovation énergétique ?
Alors, je vais le prendre sur notre parc, hein,
oui,
forcément. Donc, comme je le disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes très avancés sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on n'a plus de chaudière au fioul, hein, mais on est principalement sur le parc, on va dire, probablement à plus de 80% chauffé au gaz, hein, aujourd'hui. Oui. Et puis, dans les réhabilitations thermiques, c'est vrai que non seulement on traite l'enveloppe du bâtiment, mais on traite aussi des apports d'énergie complémentaires, notamment par des énergies renouvelables. Voilà, on est beaucoup allé sur ces sujets-là.
Très bien.
Vous parliez de charges, mais je pense que le confort aussi est important.
Oui.
C'est-à-dire que le locataire, il va ressentir différents effets. Un effet porte-monnaie et un effet aussi confort dans l'habitat. Donc c'est vrai que c'est deux choses qui se cumulent et qui sont très intéressantes.
Hein. Et c'est vrai qu'on fait des enquêtes de satisfaction en fait auprès de nos locataires après ces réhabilitations thermiques. Et en général, voilà, on a un pourcentage de satisfaction extrêmement élevé, complètement lié au confort, en sus, effectivement, de la diminution des charges.
Sur ce que dit Roselyne, on n'utilise pas les bons arguments. Moi, je me rappelle, pour le compte d'une grande organisation professionnelle que je dirigeais à l'époque, avoir signé un accord, comme toutes les grandes familles professionnelles, avec Jean-Louis Borloo. Il a été le ministre qui a porté ça, et ça continue, et c'est très bien. Et l'argument, je me rappelle le discours du ministre, l'argument c'était la réduction de la facture énergétique. Bon. Pour les propriétaires occupants, pour les locataires, notamment les plus modestes, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Il y a trois autres arguments. Alors le premier, il n'est pas neutre, il est très exigeant. C'est aujourd'hui la sauvegarde de la planète et le développement durable au sens propre, c'est-à-dire les générations qui suivent. Ça porte, c'est ça la Convention citoyenne aussi. Hein. Ça faisait sourire, hein. À l'époque Jean-Louis Borloo, on disait enfin, l'intérêt de la planète, tout le monde s'en fiche. Non, c'est pas vrai.
Les choses bougent vite. Ouais.
Mais oui, bien sûr. Et, autre argument, le confort. On ne parle pas assez de confort de vie. Tiens, la sensation de paroi froide quand on est dans un logement.
Et si on télétravaille toute la journée, c'est quand même important.
Ça va en rajouter. Donc parlons de confort pour les occupants. Et la valorisation, la valeur verte pour les propriétaires, qu'ils soient bailleurs. Parce que le bailleur, on peut dire, mais il n'en a rien à faire, bailleur social, institutionnel, les autres, il n'en a rien à faire, c'est pas lui qui y vit. Si, parce que la valorisation du parc n'est pas la même. Et quand on va estimer qu'un logement, ça va aller jusque-là à 20 ou 25% de valeur en moins, ou n'est plus liquide, ne se vend plus dans les marchés un peu moins tendus, ça va changer de danse. Voilà. Donc l'argumentaire, il n'est pas stabilisé.
Anne-Sophie Grave.
Oui, deux réactions par rapport aux propos. C'est effectivement, et par rapport notamment au changement climatique et la Convention citoyenne. Donc c'est vrai que nous, je ne vais pas dire que c'est derrière nous la rénovation énergétique, mais si, quasiment. Et en fait, aujourd'hui, nous, on travaille à un plan d'adaptation de notre patrimoine au changement climatique. C'est-à-dire comment on répond, comment on va répondre voilà, au confort d'été, aux sécheresses, aux inondations, selon en fait la cartographie de notre patrimoine, parce que c'est ça le défi qu'on a devant nous en tant que bailleurs demain. Deuxième réaction, effectivement, sur le regard sur l'investissement durable, hein, d'une certaine façon, avec l'expérience de notre plan de relance, les 40 000 VEFA, c'est quasiment deux années de production pour nous. Donc évidemment, on ne pouvait pas le financer seul. Donc on a fait appel à des investisseurs institutionnels et les investisseurs institutionnels, ils sont extrêmement exigeants la labellisation de la performance énergétique et au-delà des exigences environnementales. Et finalement, c'est un excellent aiguillon pour la production aujourd'hui de logements.
Madame Grand, vous indiquiez tout à l'heure que votre parc, le système de chauffage, c'est plutôt tourné autour du gaz. On voit aujourd'hui plutôt une tendance à aller vers l'électricité parce que là aussi, en termes d'impact environnemental, on juge, puis c'est objectivement vrai, que l'impact de l'électricité est moins important que celui du gaz, qui est une ressource fossile et donc qui a des émissions supplémentaires en termes de CO2. Comment vous envisagez les changements qui pourraient intervenir dans les prochains mois et les prochaines années quant à cette différence et peut-être cette nouvelle orientation qui va être prise dans le logement?
Alors, il est vrai que ça va surtout être pour la production nouvelle qui va arriver. Donc, il va falloir effectivement que progressivement, voilà, on s'adapte à cette nouvelle réglementation environnementale. Et ça peut être aussi par, certes, l'électricité, mais aussi par d'autres types d'énergie renouvelable. C'est vrai que dans cette réglementation environnementale, il y a aussi, je dirais, toute la composante des matériaux aussi utilisés. Voilà, quels matériaux biosourcés. C'est vrai que nous, sur ce sujet-là, si vous voulez, on croit beaucoup à l'expérimentation. Oui. Enfin, on croit qu'il n'y a pas de vérité unique. Il faut aussi que, je dirais, les professionnels aient le temps aussi
de s'adapter
et de pouvoir la mettre en œuvre. Je pense qu'on est tous mobilisés sur ce même objectif. Hein. Mais il faut pouvoir nous donner le temps en fait, d'expérimenter et de voir finalement quelles sont les meilleures solutions à mettre en œuvre.
Et il y a la question des comportements, dont on ne parle jamais.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a une approche réelle, hein, c'est-à-dire sur l'objet qui est le logement. On ne parle pas des occupants. Je suis désolé, il faut une didactique. Alors, je ne doute pas qu'elle soit faite. Enfin, c'est une question déguisée dans l'univers du logement social, pour les occupants des logements sociaux, mais d'une manière générale. Enfin, on a tous, je vais vous faire sourire, mais vous connaissez ça. Moi, mes enfants, ils me montrent du doigt quand je... Voilà, si j'ai une voiture qui consomme trop, etc. Mais ils laissent toutes les lumières allumées. Il laisse couler tous les robinets. Voilà, je veux dire qu'il y a une éducation à avoir vis-à-vis aussi de ça, parce que on sait très bien, c'était un reproche qu'on faisait au DPE quand on le calculait sur les factures, ça va changer. Bah, entre deux utilisateurs, ça va du simple au triple, quoi. Voilà, il y a celui qui vit bien à 24 degrés chez lui, c'est trop. Celui qui vit à 17 degrés, c'est peut-être pas assez, mais ça dépend comment il a grandi. Bon, soyons sérieux, c'est un vrai, vrai sujet. On n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on nous culpabilise, l'État aussi nous dit, ben voilà, il faut rénover, etc. Mais aussi, apprends à utiliser ton logement.
C'est et vous, Henri, vous êtes plutôt 18 degrés ou 25?
Je suis entre les deux. Je suis centriste pour la température.
On court sur le chauffage voilà. Aussi. On a parlé tout à l'heure du mal logement et de la mixité sociale. Évidemment, CDC Habitat est un acteur majeur. Je sais que vous êtes très active aussi sur ce sujet. C'est quoi l'actualité du groupe CDC Habitat et puis vos priorités, puisque vous avez pris récemment la présidence du directeur de CDC Habitat. Quels sont les grands axes dans les prochains mois et les prochaines années pour CDC Habitat?
Alors, en fait, nous, notre objectif principal aujourd'hui, c'est de faire vivre, on va dire concrètement, sur les territoires, cette dimension d'opérateur global, c'est-à-dire d'être présent sur les différents segments du marché locatif social, parce qu'on est voilà convaincu que c'est comme ça demain que nous ferons des quartiers équilibrés. Voilà, on a parlé du logement locatif social, mais c'est vrai qu'on est un acteur aussi important dans le logement intermédiaire. On voit que ça vient répondre aujourd'hui à un besoin important aussi sur les travailleurs clés. Enfin, c'est un sujet qui a quand même émergé très fortement, je dirais, pendant la crise sanitaire. Et quand on regarde, en fait, les niveaux de ressources de nos entrants, donc dans le parc locatif social, mais aussi dans le parc intermédiaire, on voit que ça répond, je dirais, très bien, en fait, aussi à ce segment, en fait, de demandeurs de logement. Donc voilà, ça, c'est un axe extrêmement important pour nous. On a un axe aussi important de développement sur l'innovation, puisque on l'a évoqué rapidement avec le télétravail, mais on voit bien qu'on ne peut pas ne pas se poser la question aujourd'hui, demain, des modes d'habiter. On est quand même un très gros producteur de logements. On a parlé aussi du plan climat. Donc on se dit, nous, quelque part, on est contributeur à la fabrication de la ville de demain. Ça nous oblige d'une certaine façon et on veut intensifier en fait notre innovation, que ça soit sur les usages du logement, les usages.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire des espaces partagés peut-être dans les immeubles?
Ça veut dire, si vous voulez, on se dit aujourd'hui le logement, il faut le regarder, on ne l'utilise pas de la même façon dans la journée, donc oui. Il y a différents usages dans la journée. Après, il y a les temps de vie. Voilà. Et il faut qu'on arrive à répondre en fait à ces différentes demandes qui sont parfois même contradictoires, et donc à ces usages. Oui, donc ça peut être des espaces partagés. Tout à l'heure, je parlais d'expérimentation. C'est aussi dans ce sens-là, parce qu'on voit que les usages, ils bougent vite. Nous, on construit pour plus de 50 ans en général, et il faut qu'on se dit en fait aujourd'hui.
Il faut anticiper le besoin.
On est sur des temps beaucoup plus courts en fait de changement des usages, et comment les logements qu'on va construire demain, ça veut dire les infrastructures du bâtiment, vont nous permettre en fait d'avoir des logements beaucoup plus évolutifs demain que ce qu'on faisait hier.
Je me tourne vers Séverine. Les nouveaux usages, justement, c'est quelque chose que vous surveillez avec les études aussi chez Se Loger?
On essaye, effectivement. Nous, on s'était rendu compte après le Covid que les nouveaux usages, c'était une pièce en plus. C'était du Wi-Fi, la fibre. Très important de ne pas être en zone blanche. Les gens qui achètent ou qui louent sont très sensibles à ça. Parce qu'effectivement, le télétravail a battu ses cartes un petit peu. Alors, le marché d'emploi ne se déplace pas, mais cette notion de télétravail, elle est très importante et on le voit dans les porteurs de projets, dans les sondés. Donc pièce en plus, accès Wi-Fi, et c'est ce qui remontait majoritairement dans ces nouveaux usages. Ouais.
On parle aussi beaucoup de réversibilité des bâtiments. C'est une notion qui va probablement arriver avec le projet de loi climat issu des propositions de la Convention citoyenne. Vous le pensez, vous, déjà, à l'échelle de CDC Habitat?
On le pense, et puis on va avoir un projet grandeur nature, puisque vous savez qu'on est présent en fait sur le village des athlètes pour les Jeux Olympiques. Et donc là, on est en plein dans la réversibilité, puisqu'il est d'abord conçu effectivement pour le logement des athlètes, et après, ça sera un quartier de ville. Donc, et ça contribue en fait à alimenter, je dirais, nos réflexions sur ces sujets-là. Mais on voit bien que c'est un enjeu, enfin moi je suis une conviction, c'est un enjeu majeur pour demain. Et puis peut-être pour compléter ma réponse sur nos enjeux là dans la période à venir, c'est vrai que lorsqu'il concerne le logement social, il y a une réorganisation assez importante aujourd'hui du secteur suite à la loi Elan qui demande en fait aux organismes de moins de 12 000 logements de soit de se regrouper, soit de se rapprocher d'un groupe. Donc on a été aussi contributeur, je dirais, de cette restructuration du secteur. Donc on a mis en place un certain nombre de partenariats, une quarantaine de partenariats. Et le gros enjeu maintenant, ça va être de faire vivre aussi ces partenariats avec un objectif, là aussi, d'accroître la production de nos partenaires, de les accompagner dans les réhabilitations thermiques, et puis le cas échéant, d'apporter de l'expertise là où il y en aurait besoin, puisqu'on est bien dans une logique de partenariat et non pas d'intégration.
Vous le disiez aussi tout à l'heure, CDC Habitat, c'est peut-être une des entités en France qui permet un vrai parcours résidentiel. On a parlé du mal logement, on sait qu'il y a des travailleurs clés. Parmi les travailleurs clés, il y a malheureusement des gens qui dorment dans leur voiture, qui sont salariés, mais qui n'arrivent pas à se loger. Et donc par exemple, Adoma, votre filiale qui s'occupe de l'hébergement d'urgence et puis de l'accompagnement social, intervient. Ensuite, on a le logement social, le logement intermédiaire, qui arrive avant le parc libre, où on constate, en fonction de la tension entre les villes, dans les zones, différents niveaux de loyer. Là aussi, cette notion de parcours résidentiel, à la fois pour les travailleurs clés, mais pour l'ensemble des Français, c'est important. Comment ça se concrétise au sein du groupe CDC Habitat ?
Ça se concrétise par le fait, si vous voulez, qu'il faut savoir répondre à la demande de mobilité de nos locataires. Alors, c'est vrai que sur le logement social, on va être un peu aidé par la gestion en flux, notamment, oui, qui devrait rendre les choses, je dirais, plus simples et moins rigides par rapport à hier. Mais c'est vraiment, effectivement, des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui avec, je dirais, les outils numériques, hein, notamment les plateformes numériques, d'arriver à mieux identifier, en fait, les demandes de nos locataires pour pouvoir, en fait, encourager cette mobilité et cette mutation. Pour laquelle, il faut bien le reconnaître, voilà, il y a quelques années, les bailleurs n'étaient pas forcément les mieux équipés, alors qu'on a facilement, pour les locataires de nos parcs, au moins entre 14 et 20% en fait, de demandes de mobilité, ce qui est énorme. Hein, les situations familiales, le rapprochement de son lieu de travail, il y a moult raisons. Et voilà, on a aussi cette ambition de mieux servir, en fait, cette demande de mobilité. Et puis, on sait bien aussi que par rapport à la crise du logement, on a le sujet de la rotation dans le parc. Donc, c'est vrai qu'au plus on peut permettre de faciliter, cette rotation et cette mobilité, au plus ça permet aussi, à d'autres bénéficiaires de pouvoir rentrer dans le parc social, notamment.
Henri, on a tendance en France à enfermer peut-être les gens dans des cases. Alors, c'est à la fois au sens propre et au sens figuré, puisque en termes de logement, c'est vrai que le logement social n'est pas forcément vu comme, un tremplin. Parfois, on y reste longtemps. Il y a le sujet de la rotation. Comment on sort de l'hébergement d'urgence pour aller vers du logement social ou vers du logement libre? Comment on facilite ces parcours résidentiels?
Je crois qu'on le facilite. Alors, on parle d'un acteur qui est CDC Habitat, qui est intégrateur à cet égard, qui a des réponses à tous les stades. Et puis pour le reste, il faut additionner les compétences. On a un problème de cloisonnement entre les acteurs. Tiens, je vais vous avouer quelle est ma grande fierté. Et quand je vais mourir, je voudrais qu'on le mette en épitaphe.
Le plus tard possible.
On ne sait jamais, tout est possible. Voilà, bon. Oui, mais je suis d'accord avec ça. J'ai été dans l'univers du logement social, je l'ai appris, quand j'ai dirigé le Crédit Immobilier de France, voilà, une famille, alors on va dire qui a changé de nom. Bon, c'est Procivis. Et j'ai découvert l'engagement des femmes et des hommes dans ce secteur-là. Ce qu'ils faisaient, parce qu'on le sait pas vraiment. On le sait un peu quand on a été locataire du logement social, ça n'avait pas été mon cas. Et puis voilà, j'ai été un acteur du logement privé, je suis toujours. Je suis un animal rare. Ces deux univers déjà ne se connaissent pas bien.
Oui,
déjà.
C'est vrai.
Quand on ajoute à ça l'univers associatif, on parlait de Habitat Humanisme, de la Fondation Abbé Pierre et tant d'autres. Bon, même chose. C'est encore cloisonné, même par rapport au logement social. Donc aujourd'hui, ce chaînage, dont on peut aussi avoir une fierté dans ce pays, parce que on a des grands acteurs à tous ces stades-là. Ils ont parfois du mal à fonctionner entre eux. Parfois, ils se sentent un peu concurrents, même dans l'univers HLM. Moi, j'ai connu ça, entre les familles HLM. Bon, et en fait, ils sont complémentaires. Ils ont des histoires différentes entre les entreprises sociales pour l'habitat, qui sont des entreprises de droit privé, hein, bon, des sociétés anonymes de droit privé, les coopératives, qui ont une très belle histoire, qui sont une petite famille en nombre de logements, mais qui sont pleines d'inspiration, qui ont inventé la sécurisation de l'accession sociale, quantité de choses. Et puis le logement public, avec derrière l'État, les collectivités, les organismes HLM, ces trois grandes familles, ben même entre elles, quelquefois, je pense qu'elles pourraient se parler davantage au sein de l'Union sociale pour l'habitat. Donc je pense qu'on souffre un peu de ce cloisonnement parce qu'on a des réponses pour tout de très bonne qualité. Jamais assez, hein, jamais assez, ouais. Et notamment pour l'hébergement d'urgence, il en manque. Mais on en a.
Très bien. Anne-Sophie Grave, le mot de la fin pour vous ?
Peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, le mot de la fin, c'est que ça bouge.
Oui.
Ça bouge parce que, d'une part, les collectivités, les territoires, eux, veulent favoriser cette mobilité, veulent favoriser les interactions entre les différents opérateurs localement, ne veulent pas trop non plus une multiplicité d'opérateurs. Donc, à nous de nous organiser entre nous.
Simplifier, oui.
Et puis, ça évolue aussi parce qu'aujourd'hui, on a des moyens différents. On sait mettre en place des plateformes d'échange entre bailleurs.
Oui.
Grâce aux outils nouveaux, ce qu'on ne savait pas faire hier. On s'est beaucoup mieux adressé, voilà, une demande d'un locataire, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau de ressources, sa recherche sur un territoire donné.
Donc on aura plus de fluidité demain dans le logement.
Voilà, donc je pense que demain, enfin, si on s'en donne les moyens, bien sûr, et si on en a la volonté, je pense qu'on saura répondre à cette question qui est complètement essentielle, effectivement, pour offrir à chacun, pendant son parcours résidentiel, la bonne solution logement.
Très bien. Eh bien. Écoutez, c'est sur ce regard vers l'avenir que se termine cette émission. Madame Anne-Sophie Grave, merci beaucoup de votre participation. Merci à mes acolytes Séverine, Roselyne et Henri pour votre présence et vos éclairages toujours précieux. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Planète Immo.
Planète Immo, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.